Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je viens à l'église. Je suis venu déjà pour une pastorale il y a quelques temps. Et c'est vraiment des beaux locaux. Je tiens à vous féliciter. Je sais que c'est vous qui avez été les artisans. Hein ? On est des artisans de paix. Parfois, il faut aussi également être un vrai artisan pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Voilà, je viens donc de Salon Provence. C'est pas très loin. Et j'aimerais, avant de m'entretenir avec vous d'un sujet, vous apporter les salutations de Madame Rimbaud. Vous voyez qui c'est ? Madame Rimbaud, qui est souvent sur Salon de Provence par le fait que sa fille est à Salon de Provence. Et d'ailleurs, sa fille, pour laquelle vous avez prié pour un cancer, voilà, a fait des analyses jeudi et me disait ce matin de vous remercier pour vos prières parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune trace. Elle était encouragée. Elle a encouragé l'Église également parce que le Seigneur est grand, il peut tout. Amen. Et ce soir, cet après-midi, j'aimerais parler avec vous de la justice. La justice. La justice, par définition, nous dit que c'est un principe moral qui exige le droit, le respect du droit et de l'équité. Principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. La justice. Et il y a différentes justices. Suivant certains pays, la justice n'est pas la même. Les lois sont différentes. La justice qu'il y a en France n'est pas la même que la justice qu'il y a au Moyen-Orient ou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est vrai. Mais la justice, en fin de compte, est indispensable pour vivre ensemble, est indispensable pour vivre en paix. Elle fixe les lois, les règles à l'être humain. Et on a besoin de lois, on a besoin de règles, c'est vrai, pour vivre. Sinon, c'est l'anarchie. Chacun fait ce qui lui plaît sans se soucier de l'autre. Et cette indifférence, ce non-respect participe plus à la zizanie, aux tensions, qu'à la paix, c'est vrai. La France, qui est le pays des droits de l'homme, où elle est regardée peut-être, notre pays, comme un modèle de justice. La justice a ses qualités, c'est vrai, mais la justice aussi a ses défauts, a ses manquements et a ses failles. On peut dire, c'est vrai, que justice soit faite dans l'espérance que nous plaçons dans la justice pour que la justice soit juste. C'est le propre de la justice d'être juste, c'est vrai. Mais la justice humaine aussi a ses failles, et peut-être que vous avez déjà dit, ou peut-être que vous avez entendu dire, si c'est ça la justice, elle n'est pas très juste, elle n'est pas très équitable. Dans le verdict des hommes, dans la quête de vérité pour rendre la justice, l'homme peut se tromper, il peut faire des erreurs. Et c'est arrivé et ça arrivera encore. On connaît des cas où la justice s'est trompée, des cas même connus, parce que la justice des hommes n'est pas infaillible. Et la justice, en général, n'est pas toujours juste. Il nous est peut-être arrivé de trouver telle ou telle situation injuste. Et là, je ne parle pas de la justice judiciaire. Peut-être que dans votre travail, vous avez été victime d'injustice. Peut-être même que dans votre famille, vous avez connu l'injustice. On vous a calomnié, on a répandu des choses sur vous qui étaient fausses. Peut-être dans le cadre de votre ami, de votre voisinage, on a dit des choses, on vous a mis une étiquette et ça vous paraît tellement injuste. C'est vrai. Un drame. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi je passe par la maladie? C'est injuste de vivre cela. Pourquoi, Seigneur, tu as permis qu'il y ait telle ou telle difficulté? Peut-être pour vous qui venez pour les premières fois, pourquoi? Pourquoi? La justice de Dieu n'est pas infaillible, et est infaillible. Et il y a des pourquoi, c'est vrai. Et on se dit, pourquoi ça arrive à moi? En fin de compte, ça veut dire que j'aurais préféré que ça arrive à quelqu'un d'autre. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Et on se rend compte qu'en fin de compte, on exerce notre propre justice. Tant que ça n'arrive pas à ma famille, en fin de compte, ce n'est pas forcément grave. Quelqu'un a dit, ce n'est pas l'injustice en soi qui nous blesse, c'est d'en être l'objet. C'est vrai, quand on est l'objet d'injustice, on est là comme désemparé, on sent qu'il y a un verdict qui tombe, il y a peut-être une échéance qui tombe, et on se dit, mais comment ça se fait? C'est vrai, il y a le pouvoir de décision qui nous échappe, et quelque part on ne peut rien faire, on est comme pris au piège, c'est vrai, parce que ça nous semble injuste, et la justice est tombée. Les pourquoi? Il y a des pourquoi dans nos vies, c'est vrai. Les pourquoi que nous avons fabriquent notre propre justice. Et une justice qui n'est pas toujours juste. On peut fabriquer sa justice. Quand vous parlez de Dieu aux gens, personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont souvent des pourquoi. Mais si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant d'injustices? C'est vrai. C'est dire, en fin de compte, si Dieu existe, moi je ferais mieux que lui. Ma justice serait différente et elle serait meilleure que la sienne. Mais souvent, quand il m'est arrivé, encore la semaine dernière, de parler à quelqu'un qui était là et qui avait des pourquoi, j'expliquais que Dieu est souverain et que surtout, Dieu laisse libre l'homme de choisir. Quand Dieu dit « J'ai créé l'homme à mon image », ce n'est pas avec deux bras, ce n'est pas avec deux jambes. Dieu est esprit, il n'a pas deux bras, il n'a pas deux jambes, mais par contre, il a le libre arbitre. Il a cette conscience qui nous a laissée, et alors nous sommes à même de choisir de faire le bien ou de faire le mal, de vivre dans l'égoïsme, dans l'indifférence ou alors dans l'amour. Et tous les malheurs, beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie sont dues à l'égoïsme des hommes et des femmes. Vrai ou pas? Et cette personne, comme à chaque fois que j'ai pu expliquer cela, a réalisé que c'est vrai. Il y a la part de l'homme dans ce qui nous arrive. On dit c'est injuste. On a vite fait de peut-être s'en prendre à Dieu, en fin de compte, que bien souvent, c'est nous qui nous mettons même dans des situations compliquées. Et même des choses qui arrivent ne dépendent pas toujours de l'injustice de Dieu. Dieu est juste, Dieu est souverain. Et les gens le comprennent. Mais ils voient bien que le malheur arrive bien souvent aussi du refus de l'homme de connaître et de suivre la justice de Dieu qui est parfaite. Nous avons parlé de Dieu, mais il y a le diable. Et lui, le diable, n'a que faire du libre arbitre. Ce qu'il veut, c'est justement influencer l'homme, il pousse l'homme, il travaille l'homme, il le contraint à tout faire pour qu'il puisse le suivre à lui et forcément ne pas suivre Dieu, pour que l'homme ne puisse pas se mettre sous la coupole, sous la vérité de la justice de Dieu. Et Dieu ne peut pas réajuster sa justice. En voyant le diable faire, il ne peut pas comme faire un demi-tour et dire « Vu que le diable force, je vais forcer moi aussi. » Sinon, il ne serait plus Dieu. Sinon, il ferait la même chose que le diable. Il exercerait même la même tactique, si je puis dire. Mais Dieu est comme cela, et il ne force pas, et il ne forcera jamais personne. Dans les évangiles, vous voyez Jésus, il ne force pas, mais il appelle, il encourage, il tend la main, mais il ne force pas. Dieu est amour, et en cela, il nous a donné la possibilité de le connaître et de le rencontrer, par des moyens tout simples. Ce que vous savez faire, le plus peut-être, parler, prier, demander. Je pense que c'est naturel de demander. Moi, j'ai des enfants, et c'est naturel pour eux de demander. Dès qu'ils viennent au monde, ils demandent. D'abord, ils sont obligés de demander parce qu'ils sont... ce mot m'échappe. Ils sont dépendants. Et parce qu'ils sont dépendants, ils demandent. Ils ne peuvent rien faire tout seuls. Et je pense que Dieu a laissé cette possibilité de demander simplement avec son cœur. Non pas des prières rituelles, mais de demander avec son cœur. Et au travers de la Bible également. Vous voulez que Dieu vous parle? Lisez la Bible. Souvent, on attend peut-être qu'il y ait quelque chose de miraculeux. Et Dieu, justement, nous enseigne cette obéissance et nous enseigne cette justice. Dans la justice de Dieu, il a plu de laisser le livre saint. Il a plu à Dieu de laisser cette lettre pour que nous puissions vraiment la lire et rentrer en contact avec lui. Il ne nous a pas laissé sans rien. C'est possible de le rencontrer. Romains 1, 28 nous dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant rempli de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice. » J'arrête là parce que la liste est longue. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et il n'y a pas le souci dans l'homme de connaître la justice de Dieu. Et la justice de Dieu n'est pas en remettre en cause, mais bien plutôt la justice de l'homme. L'homme ne se soucie pas de connaître Dieu et au jour du malheur, il se pose des questions. Quand les choses vont mal, c'est facile de dire c'est la faute de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi de la justice de Dieu? L'amour que Dieu manifeste, en fin de compte, est là et la justice de Dieu est remplie de son amour. Et cela continue encore aujourd'hui. Il renouvelle sa compassion, il renouvelle son appel pour que nous puissions connaître sa justice. Il dit « Je veux me faire connaître à toi, je veux que tu puisses me découvrir, pas en me cachant. » C'est pas en me cachant, vous savez, même je pense que dans chaque village français, quelque part, il y a, grâce à ce clocher, la possibilité d'avoir une éveil spirituel. Alors peut-être que la religion et la chrétienté traditionnelle a un petit peu terni l'image, et là n'est pas le propos cet après-midi, mais je pense que c'est possible d'être éveillé. Dieu multiplie les appels, il multiplie l'éveil spirituel qu'il y a en nous, parce que nous sommes faits, c'est vrai, à la fois de corps, de chair, mais il y a une âme en nous, cette spiritualité, et donc Dieu veut éveiller cette spiritualité pour que nous puissions connaître sa justice. Prenez avec moi Romains 5, Romains chapitre 5, verset 18. Un beau passage concernant la justice de Dieu. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Romains chapitre 5, verset 18. Il nous est dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Il est question là du premier homme. Comme par la désobéissance d'un homme, il est question d'Adam et Ève. Et Adam et Ève ont péché en n'écoutant pas la volonté de Dieu, en lui désobéissant, en transgressant la justice de Dieu. Et Dieu a prononcé un verdict face à ce désobéissement. On voit que le péché s'est répandu à toute l'humanité. Et de ce fait, la condamnation a atteint tous les hommes, nous l'avons lu. Et ça paraît injuste quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le premier homme et la première femme désobéissent et moi, 6000 ans après, je suis là et j'en subis encore la peine. C'est terrible. Est-ce que c'est juste de vivre cela? Mais nous l'avons lu, c'est vrai. Quand on ne se soucie pas de Dieu, on récolte ce que l'on sème. Et Adam et Ève ont subi la conséquence de leur transgression. Ils ont subi la conséquence de leur péché. Car le péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. On connaît cette histoire. Ils ont mordu le fruit défendu. Ils ne vont pas obéir. Et quelque part, on voit que c'est presque naturel de ne pas obéir maintenant à cause d'Adam et Ève. Adam et Ève ont transmis cette condamnation à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais on voit au travers que de leurs deux fils, Caïn et Abel, il y a deux chemins possibles. Même si la transgression a eu lieu, même si la justice, le verdict est tombé, on imagine Adam et Ève en train de parler à Caïn et Abel et à dire « Tu sais, autrefois, nous n'étions pas ainsi. Nous étions dans la présence de Dieu, nous connaissions Dieu intimement, mais parce que nous lui avons désobéi, maintenant nous sommes privés, nous avons dû demander pardon et la repentance est entrée vraiment dans le monde. Et autrefois, nous n'étions pas attirés par les choses mauvaises, mais maintenant, il y a le péché qui habite en nous, malheureusement, à cause de cette désobéissance. Et quand nous sommes comme attirés par la convoitise, attirés par les choses mauvaises, nous demandons pardon, nous sommes obligés. Tu sais qu'un autrefois il n'en était pas ainsi, mais maintenant il en est ainsi. Mais tu peux surmonter cela. Abel également, tu sais, si tu es sincère, tu peux vivre. Et même si la justice de Dieu est tombée, tu peux te mettre maintenant sur la justice de Dieu et demander pardon et vivre en communion avec lui, c'est possible. Autrefois il ne fallait pas demander pardon, et maintenant c'est comme cela. Et on voit qu'il y a deux chemins possibles. L'un va accepter et l'autre ne va pas faire cas. Mais on voit également que Dieu n'en est pas resté là. Il a envoyé Jésus-Christ. Comme par un seul acte de justice, le péché s'est répandu à tous les hommes, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Nous subissons la peine d'Adam et Ève, c'est vrai, mais également dans la justice de Dieu, Jésus a prévu ce moyen de rédemption. Et Jésus n'est pas celui qui est venu juste pour faire des miracles. Juste pour faire des choses extraordinaires, et ce que l'on connaît de Jésus, c'est souvent cela. Multiplier les pains, multiplier les poissons, peut-être calmer la tempête, Jésus qui guérissait le malade. Mais Jésus est le moyen que Dieu a choisi pour répandre le salut à toutes les nations. Amen. Et si ce soir je suis là, si cet après-midi je suis là, c'est parce que mon péché a été ôté grâce à Jésus, le sang a été versé. Et donc dans la justice de Dieu, je n'ai plus à subir la peine de mes erreurs. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça nous paraît juste qu'un homme qui a fait une erreur en subisse la peine? Ça, c'est normal, c'est juste. Mais est-ce que ça nous paraît juste qu'un innocent subisse la peine pour nous? Ça, c'est injuste. Et pourtant, ça, c'est la justice de Dieu. On voit qu'elle est bien différente de la nôtre. On voit que ce n'est pas la même chose. Nous, nous sommes si facilement prêts à manifester, si facilement à peut-être dire « Mais cette personne est innocente !» Dieu a fait retomber nos fautes, nos erreurs sur un innocent, sur son fils. Et bien sûr, Dieu ne l'a pas forcé, Jésus l'a accepté. C'est lui-même qui a dit, on ne me prend pas la vie, mais je la donne. Je la donne et il l'a fait par amour. Est-ce que nous pouvons comprendre cet après-midi, aidé par le Saint-Esprit, vraiment qu'il puisse toucher notre cœur, qu'il l'a fait par amour? Et cela, c'est la justice de Dieu. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes et à moi cet après-midi aussi. Amen. Jésus était sans péché comme Adam et Ève avant la chute. Et en prenant notre péché sur la croix, à cet instant précis, il a été séparé de la présence de Dieu. C'est vrai que Jésus a été meurtri de coups, battu par les fouets, on lui a tiré la barbe, on s'est moqué de lui, on l'a insulté. Mais je pense qu'au-delà de la souffrance physique, au-delà même de la souffrance morale, abandonné de ses disciples, ceux qui quelques heures auparavant criaient « Hosanna au fils de David, celui qui béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, maintenant il le crucifie », au-delà de cela, ce qui a été pire pour lui, c'est la séparation d'avec le Père. Il était en communion constante avec le Père, il dira « Mais je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et voyez-vous, Dieu a dû détourner les regards de Jésus. Parce que le péché est tombé sur Jésus-Christ, sur ses épaules. Dieu, en fin de compte, était peut-être face à un dilemme et dire « Mais je ne supporte pas le péché. Mais en même temps, j'aime le pécheur. Comment faire pour ne pas condamner le pécheur ? Le péché est imprégné avec le pécheur. Comment faire pour éliminer le péché sans éliminer le pécheur ? Il faut que mon fils prenne sa place. Il faut que quelqu'un paye. C'est dans la justice de Dieu, il faut que quelqu'un paye. Et ce n'est pas moi qui a payé. Et ce n'est pas vous qui avez payé, c'est Jésus qui a payé pour nous. Est-ce que ça nous touche, cette vérité ? Il faut le croire par la foi. Vous pouvez être convaincu par le Saint-Esprit, vous pouvez être convaincu par la prédication de la croix. C'est vrai, mais il faut le croire par la foi. Amen. C'est la foi qui nous amène à saisir ces choses-là, à croire l'invisible. Alléluia. Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelle question terrible. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Je pense que, en fin de compte, il connaît bien sûr la réponse. C'est une question, mais il connaît la réponse. Je sais pourquoi tu m'as abandonné, et ça en vaut la peine. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'en fin de compte, j'ai laissé mon ciel de gloire pour venir justement mourir sur la croix. C'était la mission, le but ultime, être là. Et peut-être arriver à cette question, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'abandon du Père. Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons pas abandonnés, nous, cet après-midi. Pour que nous puissions trouver un puissant recours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Jésus a levé les yeux et a crié l'abandon du Père, mais cet après-midi, nous pouvons lever les yeux et réaliser que Dieu ne nous abandonne pas. La justice de Dieu est bien différente de la nôtre. Justement, sur la croix, est-ce qu'on peut lire ensemble ? Luc, chapitre 23, verset 39. Nous allons lire ce récit où, même là, sur la croix, Jésus qui était au milieu de deux brigands, un petit peu comme Caïn et Abel, deux frères, certainement pas de sang mais de méfait, se retrouvent là sur la croix. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un homme qui est encore lucide, alors que son corps est ensanglanté, rempli de coups, de meurtrissures, il est encore lucide pour réaliser que s'il est là, c'est parce que c'est la justice qu'il soit là. Mais par contre, il réalise que lui, le Saint des Saints, ce n'est pas juste qu'il soit là. Il reconnaît quelque part la justice des hommes, mais aussi la justice de Dieu. Il est au contact de la justice de Dieu parce que Dieu a voulu que Jésus soit là. Et c'est la justice de Dieu que Jésus soit sur la croix. Et il réalise que, en fin de compte, cette justice est bénéfique pour lui à tel point qu'il va avoir cet élan, à quel point qu'il va pouvoir demander « Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans son règne, quand tu entreras dans ton règne. » Et il dira à celui qui est là, peut-être au bout, encore sur cette croix, à l'autre extrémité, « Mais ne crains-tu pas Dieu ? Ne crains-tu pas Dieu ?» Ce qui fait la différence aussi dans nos vies, c'est la crainte. C'est la crainte, en fin de compte, non pas cette crainte qui fait peur, non pas cette crainte qui paralyse, mais cette crainte qui amène le respect de réaliser que, attention, cet après-midi, il y a un message qui m'est donné qui peut sauver mon âme. Oui, parce que vous avez une âme, et savez-vous qu'elle est éternelle ? Nous l'avons lu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et ni une ni deux, Jésus ne va pas descendre de la croix et lui faire suivre tout un programme pendant 30 jours, 40 jours, plusieurs mois avant de le baptiser. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans ton règne. Dans mon règne. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, pardon. Tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi ? Parce que tu as compris la justice de Dieu. Parce que tu t'es soumis à la justice de Dieu. L'un va le reconnaître et l'autre va le laisser de côté. Cet après-midi, plusieurs vont le reconnaître. Peut-être que, en fin de compte, tu ne vas pas accepter de suivre, peut-être pour un temps, mais plaise à Dieu que tu puisses aussi réaliser également que la justice de Dieu est la meilleure. Et qu'il faut que tu sois au contact sous l'autorité de la justice de Dieu. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, dit « Certainement, cet homme était juste. » Cet homme était juste. Et comme nous l'avons lu, la justice justifie. Il justifie la justice. Et ça, c'est merveilleux. Nous n'avons plus à peut-être nous sentir même coupables. Et parfois, alors que je discutais avec des personnes qui n'étaient pas du tout chrétiennes, sentaient le poids de leur péché, bien qu'on ne leur avait pas expliqué ce qu'était le péché par rapport à la Bible. Vous savez, on a quand même une conscience. on a quand même une conscience et parfois des personnes se sentent sales, souillées, elles ont besoin quelque part de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu un bol d'air et de dire j'ai besoin de me sentir propre, j'ai besoin, il y a un passé qui me suit, il y a des erreurs qui me suivent, il y a des actes qui sont là, quand je ferme les yeux, je revois telle ou telle scène, quand il y a une odeur qui est là, ça me rappelle tel et tel endroit, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de tourner la page, tu peux être rendu juste cet après-midi. Être rendu juste, c'est-à-dire on ferme le dossier, c'est-à-dire on marque acquitté, ces choses-là sont passées, toutes choses peuvent devenir nouvelles à condition d'accepter Jésus, à condition de dire oui, c'est vrai Seigneur, je me place et je reconnais ta justice. Cette justice est empreinte d'amour, elle est motivée par l'amour, elle est conduite par l'amour, l'essence de cette justice c'est l'amour, c'est qu'il nous aime. Et en disant cela, je réalise que l'amour, aujourd'hui, cette signification, amour, a perdu tout son sens. C'est vrai, même peut-être dans certaines familles, là où ça doit être le cœur de l'amour au sein d'un foyer, au sein d'une maison équilibrée, l'amour doit être là parfois, il n'y est même plus. Et des personnes viennent au monde, grandissent, peut-être sans amour. Et c'est difficile de comprendre l'amour. Je pense qu'il n'y a que le miracle, il n'y a que le miracle de l'amour de Christ pour nous révéler son amour envers nous. Je pourrais parler toute l'après-midi, je pourrais faire des dessins, mettre des PowerPoints. On ne pourrait pas comprendre l'amour de Christ, mais il peut nous le révéler dans notre cœur, si notre cœur est ouvert. Amen. Dieu est saint, et parce qu'il a voulu créer des êtres saints à son image, il a donné aussi la possibilité de choisir. Et quelque part, nous avons bafoué cette sainteté. Et la sainteté également, c'est un petit peu comme l'amour. On entend parler, mais on ne réalise pas vraiment ce que c'est. Nous avons besoin de revenir aussi à cela. Le problème, comme je disais, c'est qu'il y a le pécheur. Et au travers du péché qui est attaché à notre vie, on peut vivre dans cette sainteté. Jésus nous voit comme saints quand nous sommes comme lavés, quand nos fautes sont enlevées. Amen. J'ai été blanchi, j'ai été innocenté. Mes fautes ont été oubliées. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la justice de Dieu. Et il faut le faire, c'est vrai, d'un cœur sincère. Demander pardon d'un cœur sincère. Je discutais avec un voisin qui me disait, mais tu sais, demander pardon, ça paraît si simple, ça paraît si facile de demander pardon. Je lui disais, oui, c'est vrai, ça paraît facile, mais demander pardon, ce n'est pas demander pardon, excuse-moi, je t'ai bousculé dans la rue. C'est vraiment le faire avec un cœur sincère. C'est vraiment le faire en réalisant que nous avons besoin d'un pardon différent, non pas le pardon d'un homme, mais le pardon de Dieu. Et cela, bien sûr, quand on le fait avec sincérité, alors on se sent pardonné. C'est possible de se sentir pardonné, c'est possible de se sentir lavé, blanchi, si on le fait d'un cœur sincère. Le pardon est important. Sans cela, le péché n'est pas ôté dans nos vies. Et que je puisse réaliser qu'il a été cloué à la croix pour moi. Et je réalise aussi, par rapport à une parole de Jésus, une parabole, c'est une histoire pour expliquer le sens spirituel des choses. Et voyez-vous, Jésus dira, il y avait deux créanciers qui avait un débiteur. Autrement dit, il y avait deux personnes qui avaient fait un prêt à la banque, en gros. Et l'un devait 500 deniers, et l'autre en devait 50. Et c'est un créancier qui avait deux débiteurs. Pardon. Et donc, ce créancier, voyant qu'il ne pouvait pas payer la dette, il va remettre aux deux la dette. Et il dit cela à un homme, et il pose cette question, crois-tu que lequel va pouvoir l'aimer le plus? Et forcément, cet homme dira, celui qui avait la plus grosse dette. Et j'imagine un petit peu, mettez-vous à la place, vous avez une dette. Et des personnes, malheureusement, contractent des dettes. C'est tellement si facile aujourd'hui de pouvoir signer un papier. Ça y est, le compte en banque revient à flot. Et puis, mais malheureusement, on a des dettes après. Malheureusement, il faut rembourser après. Et on voit que Jésus dit, mais forcément, il va y avoir de la joie. Il va y avoir de la joie. Pourquoi? Parce que la dette va être effacée. Et c'est en cela le pardon de Jésus, c'est en cela le pardon que Dieu nous accorde au travers de son Fils, c'est que la dette a été enlevée. Quelle joie en fin de compte en expérimentant cette dette. Et ça m'a fait réfléchir à un ami qui avait des dettes. Parce que voyez-vous, la dette, en fin de compte, ça peut occuper notre esprit. Quelqu'un qui a une dette lourde a du mal à dormir. Et ses pensées sont centrées sur comment faire pour rembourser la dette. Et parfois, ça paraît impossible et des personnes, malheureusement, mettent fin à leur jour. Et j'ai connu cela. Un ami qui était avec moi, et alors qu'on avait grandi ensemble, on était tombé un petit peu dans une mauvaise habitude de consommer beaucoup de cocaïne. Et la cocaïne coûte cher. Et grâce à Dieu, ça a duré un temps, à peu près une année, où je suis passé de la drogue douce à la drogue dure. Enfin, la drogue dure, oui, la cocaïne, c'est peut-être considéré comme la drogue dure, mais heureusement, Dieu m'a gardé de la drogue bien plus dure. Mais cet ami, je l'ai invité à venir à l'église et il n'a pas continué. Il est venu quelques fois, il a été touché, mais il n'est pas resté dans les voies de Dieu. Il n'a pas vraiment fait cette vraie expérience et il commençait à contracter des dettes. Des dettes. Et quand je dis ça coûte cher, il est arrivé à des sommes importantes où il demandait à des copains de pouvoir l'aider. Et il sortait toutes sortes de mensonges. Parce que quand on se met à mentir, quand on se met à contracter des dettes, plus ça va.
Pardon, plus ça va.
Oh ouais, c'est vrai que ça change. Plus ça va, et moins ça va en définitive. À tel point qu'un jour, il nous envoie un texto et il nous dit, voilà, je vais mettre fin à mes jours. Pourquoi? Parce qu'il avait contracté trop de dettes. Et je me revois encore enfoncer la porte de chez lui, appeler les pompiers, parce que justement, il y avait la dette. La dette. Et la dette a été ôtée. Notre dette a été ôtée. Et encore aujourd'hui, des années après, malheureusement, les liens de la drogue sont encore là. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'il y a le mensonge qui vient un petit peu pour s'en sortir. Et aujourd'hui encore, j'ai encore contact avec lui. Et c'est encore des mensonges. Et c'est terrible. Je prie pour lui pour que Dieu puisse le sortir des liens. Alors, ça peut être la drogue, ça peut être tellement de choses. Ça peut être même des choses infimes que l'on ne voit même pas. L'orgueil. L'orgueil. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux m'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de cette justice. J'ai ma propre justice. Je fabrique ma justice. Au moins, en fin de compte, c'est moi qui donne le verdict quand je fabrique ma justice. Mais le problème, quand on fabrique sa justice, c'est qu'il y a aussi le revers de la médaille. C'est qu'il y a aussi des choses qui nous échappent. Parce que nous avons beau fabriquer la justice, nous ne la maintenons pas. Nous ne sommes pas les détenteurs de la justice. Tandis que Dieu, lui, il est juste, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et ô combien il est bon d'accepter, de comprendre cette justice, d'être touché par cette justice et de dire oui, Seigneur, ta justice, parfois, je ne la comprends pas. Et peut-être que j'aimerais parler cet après-midi à des chrétiens, des personnes qui ont déjà accepté Jésus et qui voudraient peut-être faire justice eux-mêmes, qui se disent, mais c'est injuste, Seigneur, il y a telle situation, j'aimerais que tu interviennes. Dieu nous enseigne la patience aussi dans sa parole. Il nous enseigne à lui faire confiance, il nous enseigne à lui obéir. Il y a des situations qui nous échappent, des situations que nous ne comprenons pas, mais il faut s'en remettre à sa justice. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit, mais c'est de lui que viennent les maux et les bienfaits. C'est lui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est lui qui fait le soleil et la pluie. Mais dans ces choses-là, nous voulons rester fermes. Il éprouve aussi parfois notre patience. Alors, nous ne puissions pas dire cet après-midi, je veux me rendre justice moi-même. La vengeance, c'est quelque chose de terrible. Et à lui appartient la vengeance. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai Seigneur, nous voulons réaliser qu'il t'a plu de faire retomber nos fautes sur les épaules de ton Fils, Seigneur. Et par cela, Seigneur, nous sommes vraiment blanchis. Que tu puisses venir convaincre cet après-midi. Et je veux prier, je crois que Jésus est là dans ce lieu parce que sa parole l'atteste, parce qu'elle dit que là où deux ou trois sont assemblés, Jésus est au milieu de nous. Et je prie maintenant, Jésus, que tu puisses venir par ton esprit convaincre. Convaincre, Seigneur, que tu es celui qui lave, qui efface les fautes, qui prend nos erreurs du passé et les jette au fond de la mer. Si la justice française ne peut le faire, si la justice ne peut complètement effacer peut-être nos erreurs, au niveau même de la société, toi, tu es celui qui efface toutes choses. Toi, tu es celui qui veut donner un nouveau départ. Merci pour ta justice. On ne peut la comprendre, elle nous échappe parfois, mais au travers d'elle, nous sommes régénérés, nous sommes renouvelés. Au travers d'elle, nous connaissons la paix. Nous connaissons la paix. Merci Seigneur d'agir également pour les bien-aimés, ces enfants que tu connais et qui ont besoin également de comprendre ta justice, de saisir ta justice et surtout de l'accepter. De l'accepter. Seigneur, viens toucher les cœurs en cet après-midi. Merci Seigneur d'agir au plus profond de nos êtres, que tu puisses Seigneur intervenir et prendre toute la place Seigneur et que ta justice se répande dans nos pensées, dans notre esprit et dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu le fais. Amen. Dans la justice de Dieu, il est également prévu de faire du bien dans les corps. Jésus était non pas insensible aux besoins des corps, il était celui qui prenait plaisir à guérir, qui prenait du temps pour guérir. Il est marqué qu'on lui amenait les malades et il les guérissait tous, il prenait du temps pour le faire. Et je pense qu'en cet après-midi aussi, on peut trouver un secours, peut-être dans un corps malade, peut-être dans une situation tellement compliquée. Alors on pourra prier dans un instant pour les maladies, mais également aussi pour peut-être des situations qui vous dépassent, qui ne sont pas dans votre possibilité de gérer, mais que ce soit lui qui puisse prendre le relais et conduire toutes choses. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un temps où les personnes qui sont désireuses de recevoir la prière et de croire qu'en venant sur le devant, ils vont recevoir la justice de Dieu, recevoir la justification, recevoir la guérison? alors vous allez le vivre. Amen. Est-ce que peut-être des personnes pourraient se lever, s'il y a un désir qui est là, alors qu'on reste encore dans la prière, en train de prier, s'il y a des personnes qui veulent venir, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Jésus est présent, il agit, il touche maintenant. Amen.